Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Avec 2 heures d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs. Et comme tous les jours, l'info avec Amandine. Bonjour, jusqu'à 13h.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, déjà 3000 suspensions 24 heures après l'entrée en vigueur de la vaccination obligatoire chez les soignants. Olivier Véran a fait le bilan ce matin sur RTL. Dans ce journal également, l'Australie qui annule une commande de sous-marins français. Paris dénonce un coup dans le dos. Et puis vigilance maximale en Méditerranée. 9 personnes sont mortes noyées hier. 9 en une seule journée.
Nos deux débats du jour, ces profs qui jettent l'éponge. RTL vous l'expliquait ce matin, le nombre d'enseignants qui quittent l'éducation nationale a été multiplié par 4 en 10 ans, à qui la faute? Et puis à 12h50, est-ce que vous êtes content de votre salaire? Est-ce que les salaires sont trop bas en France? 40% des Français estiment qu'il leur manque chaque mois 467 euros.
Et c'est justement la question du jour sur RTL.fr. Les salaires sont-ils trop bas en France? Vous dites oui massivement, à 74%. Bonjour Peggy Broche.
Bonjour Amandine.
La météo c'est avec vous, c'est mieux mais uniquement sur la moitié nord.
Exactement, avec un ciel plus lumineux et de belles éclaircies qui vont finir par gagner la façade atlantique cet après-midi. Ça va se dégager également du côté du Languedoc, mais ça reste pluvieux et encore orageux du sud-ouest aux frontières de l'est et en Corse. Les températures, elles sont de saison, de 20 à 23 au nord, 23 à 24 au sud et jusqu'à 27 degrés près de la Méditerranée.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
RTL Midi.
Et on commence avec cette histoire qui nous a interpellés, celle de cet octogénaire qui a tenté de se suicider dans le Var quelques jours seulement après avoir reçu un spam. Vous savez, ces mails frauduleux. Et Guillaume Chies, bonjour.
Bonjour.
On lui annonçait dans ce mail que la brigade des mineurs enquêtait sur lui.
Oui, un mail qui paraît tout à fait officiel. Le logo en tête est le bon. Il est signé du nom du vrai patron de la brigade des mineurs de Paris. Et le corps de texte peut faire peur. Vous faites l'objet d'une enquête pour pédopornographie. Votre dossier sera divulgué aux médias et à votre famille. La suite bascule dans l'arnaque encore plus grossière. On vous propose de suivre un lien et de payer une rançon. L'octogénaire n'est pas allé au bout de la démarche. Il a même prévenu le commissariat de Sanary la semaine dernière. Les policiers lui ont expliqué qu'il s'agissait d'une fraude qui dure depuis un an déjà et qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Pourtant, selon sa femme, cette histoire l'entêtait et c'est peut-être bien ça qui l'a poussé à tenter de mettre fin à ses jours dimanche. Il est aujourd'hui hospitalisé et souffre de multiples fractures. Alors, deux rappels pour éviter de tomber dans le panneau. D'abord, un service de police ne vous convoquera jamais par mail. Et si vous êtes directement mis en cause, ils viendront plutôt taper à votre porte. Ensuite, regardez toujours le nom de domaine dans l'adresse de mail de votre expéditeur. Vous savez, c'est ce qui suit l'arobase. Et si ce nom n'est pas connu, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un spam.
Il faut effectivement toujours regarder l'adresse en mail de provenance. Merci beaucoup Guillaume Chies du service police-justice d'RTL. Au lendemain de l'entrée en vigueur de la vaccination, de l'obligation vaccinale chez les soignants, Olivier Véran était ce matin l'invité d'RTL. Le ministre de la Santé a dressé un premier bilan.
Il y a eu hier quelques 3000 suspensions qui ont été signifiées à du personnel des établissements de santé ou médico-sociaux qui n'étaient pas encore entrés dans un parcours de vaccination. D'ailleurs, essentiellement du personnel des services support. Très peu de blouses blanches, c'est-à-dire surtout dans les secteurs de blanchisserie ou d'alimentation. Et beaucoup d'entre eux ont décidé de se faire vacciner, voyant que l'obligation était une réalité.
Bonjour Agathe Landé.
Bonjour.
3000 suspensions, dit le ministre. On parlait hier de 300 000 soignants non vaccinés. Comment on explique ce décalage?
Eh bien d'abord parce que ces 300 000 soignants non vaccinés, c'était le dernier chiffre que nous avait communiqué le ministère de la Santé. Il datait déjà de dimanche, donc très certainement qu'il avait encore baissé depuis. On sait que les autorités de santé attendaient un effet dernier moment, juste avant l'obligation vaccinale. Ensuite, selon les directions d'établissement, la remontée des certificats de vaccination a pris du temps. Ce chiffre de 300 000 non vaccinés était donc surestimé. Enfin, on sait aussi que l'on ne va pas s'arrêter à 3 000 suspensions. Les établissements étaient invités à laisser quelques jours de réflexion à leurs salariés en écumant leurs congés payés et leur RTT à partir d'aujourd'hui. S'ils ne se vaccinent toujours pas, ils partiront à leur tour. Le nombre de suspensions risque donc encore de s'alourdir dans les semaines à venir.
Agathe Landé du service santé d'RTL.
Ils sont près de 4 millions en France, ce sont les travailleurs indépendants.
Et ils seront bientôt mieux protégés. protéger. Emmanuel Macron a dévoilé ce matin une série de mesures. Leur patrimoine personnel notamment ne pourra plus être saisi.
Aujourd'hui, vous le savez, l'ensemble du patrimoine d'un indépendant peut être saisi en cas de défaillance professionnelle. Désormais, seuls les éléments indispensables à l'exercice de son activité professionnelle pourront être saisis en cas de défaillance. On n'aura plus ces situations d'angoisse que souvent beaucoup d'entrepreneurs découvrent quand les choses commencent à aller mal, ou en plus du fait que tout va mal, le seul bien qui reste, qui est la voiture, et qui est souvent la voiture du foyer, est saisi.
Emmanuel Macron au micro RTL de Vincent Derosier. Les ménages les plus modestes, eux, vont avoir droit à un chèque énergie. RTL vous le révélait dès hier soir. 100 euros pour les aider à faire face à la hausse des prix du gaz et de l'électricité. Près de 6 millions de familles devraient en bénéficier. Si vous êtes concerné, aucune démarche à faire. L'aide vous sera automatiquement adressée par courrier courant décembre.
Et je vous rappelle que nous ferons un focus vers 12h50 sur les salaires en France. C'est un sujet souvent tabou. Est-ce que vous êtes content de votre salaire? Est-ce que les salaires sont trop bas?
En attendant le coup d'envoi de la primaire des Verts, depuis ce matin, ça y est, les sympathisants peuvent voter. Bonjour Marie-Bénédicte Teller.
Bonjour.
Ils sont 120 000 à s'être inscrits.
Oui, et c'est 4 fois plus qu'en 2012 pour départager Eva Joly et Nicolas Hulot, bien plus aussi que l'addition des militants encartés. Il y a donc eu des rumeurs d'infiltration et le député RN Sébastien Chenu s'est même vanté de s'être inscrit pour voter. Mais pour Sandra Regol de la direction d'Europe Écologie, il n'y a pas de risque de manipulation.
On a travaillé avec un prestataire qui s'assure de nombreuses conditions de sécurité et de vérification. On peut vous assurer sans sourciller que toutes les conditions sont remplies pour qu'il n'y ait pas eu d'attaque d'ampleur sur notre primaire pour la détourner.
Et si quelques dizaines de personnes sont passées au travers des mailles du filet, ça ne changera pas grand-chose selon elle.
La fin du vote, c'est prévu pour dimanche à 17h, Marie-Bénédicte.
Oui, résultat quasi immédiat car le vote est électronique. Delphine Bateau, Sandrine Rousseau, Éric Piolle, Yannick Jadot, Jean-Marc Governatori, il n'en restera que 2 pour le second tour, sauf en cas de majorité absolue dès dimanche. Mais personne à Europe Écologie ne se risque à des prédictions.
Marie-Bénédicte Teller du service politique d'RTL. La France a annoncé cette nuit avoir abattu le chef du groupe État islamique au Grand Sahara. C'est lui qui avait ordonné l'enlèvement et l'assassinat des 6 humanitaires français au Niger. C'était en août 2020. Le patron de la DGSE évoque ce matin un succès majeur.
Sa mort, incontestablement, porte un coup décisif au commandement de l'IGS qui a été décapité ces derniers mois. Et elle contribue à une profonde déstructuration du groupe qui va avoir les plus grandes difficultés à remplacer ses cadres. Nanabou Walid El-Sarraoui a ordonné et suivi personnellement la conduite du massacre de Kouré contre les 6 humanitaires français d'Acted et leur guide nigérien. Il était le chef absolu des terroristes de l'État islamique dans le Grand Sahara.
Bernard Rémier, directeur général de la sécurité extérieure au micro RTL d'Émilie Beaujard. Florence Parly, de son côté, salue une très grande réussite de l'armée française. La ministre des Armées qui, en revanche, condamne l'attitude de l'Australie qui a rompu son contrat pour l'achat de sous-marins avec la France. Jean-Yves Le Drian va même plus loin, il parle d'un coup dans le dos. Bonjour Christophe Decroix.
Bonjour.
L'exécutif, on le voit, est très très remonté. Il faut dire que cette affaire, ce n'est pas juste une commande annulée.
Non, quand on vend des armements aussi puissants à un allié, on établit en même temps un partenariat stratégique. On se met d'accord sur une vision commune de la sécurité, avec des échanges de renseignements, des manœuvres communes, etc. Mais pour l'Australie, l'inquiétude aujourd'hui, c'est la Chine. Pékin revendique de façon agressive une place de plus en plus importante dans la zone Indo-Pacifique. C'est aussi le motif d'inquiétude des États-Unis qui réorientent d'ailleurs toute leur activité diplomatique et militaire vers l'Asie. En choisissant des sous-marins américains, les Australiens espèrent donc bénéficier du parapluie Joe Biden. Le problème, c'est que Biden se comporte comme Trump. On espérait le retour du multilatéralisme. Biden disait vouloir revitaliser les alliances, se coordonner. Et que fait-il? Le contraire, comme on l'a vu aussi en Afghanistan. Par ailleurs, la France ne veut pas suivre les États-Unis dans sa confrontation avec la Chine. Ce que veut Paris, c'est de la coopération, entraîner les pays de cette région Indo-Pacifique sur les mêmes valeurs que les nôtres. Et ça commence par le respect des règles internationales, telles que la libre circulation maritime, remise en cause précisément par la Chine.
Décryptage signé Christophe Decroix. Merci à vous Christophe, chef du service étranger d'RTL. On part à présent pour le Sud-Est, vigilance maximum. Après la journée noire d'hier, 9 personnes sont mortes noyées en se baignant en Méditerranée, 9 dont 5 dans l'Hérault. C'est un phénomène bien connu. Patrick Tégéraud, vous êtes à Valras-Plage.
Ce phénomène bien connu ici, on l'appelle la tiragne. Vincent sort de l'eau avec son paddle sous le bras.
Les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a des courants qui vous emportent en fait au large et très rapidement. Donc c'est sûr, quand il y a des vagues, faut pas y aller. Après, je connais les risques, je sais où sont les courants. Je fais attention quand même.
Brigitte et ses copines vivent ici, elles connaissent tous les risques.
Vous voyez, aujourd'hui, on se promène sur le sable uniquement. Par un temps comme ça, on ne va pas se baigner de toute façon. C'est tentant pour certains, mais nous, non.
Patrick Tustou est sauveteur, délégué de la SNSM pour l'Hérault et le Gard.
La Méditerranée ne paraît pas dangereuse. C'est bien tout le problème. Les gens vont aller à l'Atlantique, ils vont voir des vagues assez importantes. Chez nous, les vagues, comme vous pouvez le voir, sont très rapprochées les unes des autres. La première vous fait écarter un petit peu, la deuxième un petit peu plus, la troisième vous fait perdre pied. Et puis après, c'est très, très dur de regagner la plage. Et la vedette d'Agde, qui est intervenue donc, sur la personne qui est malheureusement décédée à Agde, a travaillé à la limite des 300 mètres. Sur une des vagues, elle s'est bien fait secouer.
Patrick insiste, mettre sa vie en danger, c'est aussi mettre en péril tous les secouristes qui vont s'engager pour le sauvetage.
Patrick Tégéro à Valras-Plage, dans l'Hérault pour RTL.
Le football, les déceptions du Paris Saint-Germain.
Ben oui, on les attendait de pied ferme, ces joueurs parisiens. Non, je n'ai pas regardé.
Vous avez écouté ?
J'ai écouté.
Bien sûr.
Ils n'ont pas vraiment brillé hier soir en Ligue des Champions, non. C'est le moins qu'on puisse dire, face à Bruges. Match nul, on le rappelle, un partout pour cette entrée en lice. Bonjour Philippe Sanfourche.
Bonjour.
Le trio magique a encore bien du travail.
Oui, ce qui a sauté aux yeux hier soir, c'est l'absence de lien collectif face à une équipe certes plus modeste, mais rodée. Les virtuoses parisiens ont paru esseulés, étouffés. Et si le puzzle ne s'est pas mis naturellement en place, c'est aussi du fait que les rôles ne sont pas clairement établis de Messi, Neymar, Mbappé. Qui doit aider les autres à défendre, à faire les efforts? C'est à l'entraîneur Mauricio Pochettino de le décider, si ce n'est déjà fait, et surtout de l'imposer dès les prochains entraînements.
Les joueurs ont besoin de jouer ensemble, d'apprendre à se connaître. Bien sûr, il faut du temps pour trouver le bon équilibre, pour être solide et gagner des matchs. Mais il est encore temps de s'améliorer. Là, forcément, on se sent tous déçus, mais il faut rester calme et analyser les choses pour aider l'équipe à s'améliorer.
Du temps, il ne va pas en disposer bien longtemps, le technicien. Argentin en poste depuis janvier dernier, on peine toujours à déchiffrer son style, ses lignes directrices. C'est lui qui va maintenant très vite se retrouver dans le viseur.
Philippe Sanfourche du service des sports d'RTL. Le prochain match du PSG, on le rappelle, c'est le 28 septembre face à Manchester City, en Ligue des Champions bien sûr. Et puis une mauvaise nouvelle, tiens, vous ne deviez pas aller au concert d'Elton John à Paris, Pascal ?
Non.
Les 10, 12, 13 octobre, ils sont reportés au mois de juin 2023, dans un peu plus d'un an et demi. La star doit en effet se faire opérer de la hanche, malgré une rééducation après une chute cet été. En attendant, je vous offre une petite consolation, cet extrait de son nouvel album qui lui sortira bien le 22 octobre.
Dans une minute, les profs qui jettent l'éponge. RTL, vous l'expliquez ce matin, le nombre d'enseignants quitte l'éducation nationale. Est-ce pour des raisons de salaire? Est-ce parce que c'est trop difficile d'enseigner? Marie Guerrier nous renseignera. On parlera également précisément des salaires. Sont-ils trop bas en France? Ce sera à 12h50. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
J'ai pas craqué en démissionnant. J'ai démissionné pour ne pas craquer. J'ai commencé ce métier par conviction, vraiment en y croyant, et je vois les situations dans la classe et en dehors de la classe qui se dégradent. Les élèves sont plus les mêmes, les parents sont plus les mêmes. Avec les réseaux sociaux, on est toujours sur la brèche en se disant « purée, il y en a un qui va sortir un truc qui est complètement faux, ça va partir en deux heures, ça va me ruiner une réputation que j'aurais passé 25 ans à construire ». Il y a l'administration qui regarde ailleurs, qui vous laisse tout seul dans votre classe avec vos problèmes si vous en avez. Il y a un regard qui s'est dégradé aussi sur les enseignants. Et ça, au bout d'un moment, c'est plus possible. Et c'est plus possible parce que c'est pas le métier que j'ai choisi il y a 25 ans.
Comme Sébastien qu'on vient d'entendre, ils sont 7241 à avoir quitté l'éducation nationale en 10 ans. Bonjour Marie Guerrier.
Bonjour.
C'est vous qui avez mené cette enquête pour RTL. Le nombre de démissions multiplié par 4 donc en 10 ans et ce phénomène s'accélère.
Oui, 200 démissions supplémentaires chaque année depuis 2015. Alors majoritairement ça touche les profs stagiaires. Mmh. Ils viennent d'avoir leur concours, c'est leur première année où ils ont une classe à charge à mi-temps et puis le reste, eh bien, ils doivent continuer leur diplôme universitaire. C'est un programme très chargé et la difficulté du métier parfois, mais c'est un choc. Une réforme du concours se met en place cette année. Alors peut-être que ça va un peu atténuer les choses. Mais on voit aussi que le nombre de démissions augmente chez les professeurs qui ont plus d'expérience. Alors évidemment, rapporté au nombre total d'enseignants en exercice, c'est pas grand-chose, mais c'est une tendance indéniable avec davantage de démissions en école primaire qu'en collège et lycée.
Mais c'est ce que j'allais vous dire quand même, parce qu'il y a près de 900 000 enseignants. Près de 900 000. Il y en a 7240 en 10 ans. Ça fait 700 par an.
Alors, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut regarder. C'est-à-dire qu'en 2008-2009, il y avait quelques 300 démissions. On est arrivé à, 10 ans plus tard, 1400. Mmh. Et ça, c'est la partie émerger de l'iceberg, il y a tout ce qui se passe en dessous, c'est-à-dire des gens qui se mettent en disponibilité, qui demandent des temps partiels parce que ça permet de faire une pause, de respirer. Et tout ça, en fait, ne fait qu'augmenter. Alors oui, oui, c'est pas beaucoup en nombre, mais c'est une tendance.
À qui la faute ?
Alors, il y a multi-facteurs, hein,
bien sûr. Oui, on entendait Sébastien, il évoquait plein de raisons. Mais...
voilà, alors sur le forum Quitter l'enseignement, il y a un prof qui écrit « J'ai eu de bons moments, mais j'ai perdu la foi ». Il énumère « Faire de la discipline, s'adapter aux réformes et faire face à des petits chefs ». Et puis il y a les saisines auprès de la médiatrice de l'éducation qui sont en hausse pour des problèmes d'affectation, de mutation, de déroulement de carrière. Donc voilà, il y a beaucoup de raisons qui s'ajoutent, des situations personnelles aussi. Et tout ça fait qu'on observe cette hausse. Peu, bien sûr, mais cette hausse des démissions.
Les salaires, ça joue ou...
Ça rentre forcément en ligne de compte. On entendait hein, ce sentiment de déclassement. On n'a plus ce regard bienveillant sur les enseignants. Il y a même une prof qui me disait, voilà, on ne nous respecte plus. Alors évidemment, on ne vaut plus rien. Et regardez nos salaires, ils ne valent pas grand-chose non plus.
Alors c'est vrai que les salaires sont plus bas, et notamment qu'en Allemagne. Mais en Allemagne, paraît-il que les Allemands travaillent plus, c'est-à-dire qu'ils ont 10 semaines de congés payés contre 15 en France.
Alors quand on regarde le temps à passer devant les enfants, les enseignants en premier degré, donc dans les écoles primaires en France, ont un nombre d'heures à passer devant les enseignants qui est parmi les plus importants des pays d'Europe. Donc ça, au niveau du temps de travail, et puis vous savez très bien qu'il y a tout ce qui se passe en dehors, évidemment, du temps qu'on passe devant les élèves. Et puis, il y a une confirmation qui est arrivée ce matin même dans le nouveau rapport publié par l'OCDE. Au bout de 15 ans de carrière, un prof français est payé 15% de moins que la moyenne des salaires des enseignants dans les pays de l'OCDE. Éric Charbonnier de l'OCDE qui a détaillé les chiffres ce matin.
Sur la période 2010 à 2015, on a pu voir une véritable baisse du salaire des enseignants. C'est une période où il y a eu un gel de l'indice en France. Mais depuis 2015, il y a un léger rattrapage avec une augmentation de 4 points de pourcentage. Donc il y a une légère progression, mais les écarts demeurent toujours importants par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE. Il faut avoir une réflexion globale sur le métier d'enseignant. La rémunération est un aspect important, mais le bien-être des enseignants est aussi un élément important.
On ajoutera également que en France, les profs partent plus tôt à la retraite qu'en Allemagne, par
exemple.
Alors,
en tout cas, la moyenne des départs à la retraite, c'est plus de 61 ans en France. Donc, quand même, ils ont une carrière. On peut passer 40 ans, plus de 40 ans, évidemment, dans une carrière de prof. Il faut regarder que d'ailleurs, les enseignants sont de moins en moins nombreux à dire qu'ils vont pouvoir faire toute leur carrière dans le même métier, dans l'éducation nationale. Enfin, en tout cas, on entend. Il faut non seulement travailler la question des salaires, mais le bien-être, la formation, la coopération entre les enseignants, parce que le métier, il a changé. Alors je vous donne quand même un dernier chiffre pour terminer. Il y a plus de 80% des enseignants qui disent qu'ils exercent leur métier avec plaisir. Donc on
80%
va quand même.
Quand même.
C'est énorme.
Il n'y a pas beaucoup de salariés du privé, par exemple, qui diraient ça d'une entreprise.
Et malgré tout ce qui entoure
RTL,
la difficulté de ce métier.
On est à 99%, paraît-il.
Ça va de soi.
Bon, on va parler des salaires. Et ça, c'est un sujet souvent tabou. Est-ce qu'en France, les uns et les autres sont contents de leur salaire ? Est-ce que vous êtes content de votre salaire ? Et je parle aux auditeurs, bien évidemment. Est-ce que les salaires sont trop bas ? À tout de suite.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Un Français sur deux même estime que son pouvoir d'achat a baissé au cours des 10 dernières années. En moyenne, quand on interroge les ménages, il leur manque 467 euros par mois pour vivre confortablement.
Ça, c'était ce matin sur RTL. Marcy Adieu qui nous dévoilait le baromètre Cofidis sur le pouvoir d'achat. Vous l'avez entendu, 40% des Français estiment qu'il leur manque chaque mois 467 euros. Alors, les salaires sont-ils trop bas en France ? C'est le deuxième débat d'RTL Midi. On en parle avec vous, Martial. Bonjour.
Bonjour.
Et Antoine Lecoq, directeur général de Page Group, le cabinet spécialiste de recrutement et de l'intérim, qui publie justement une grande enquête sur les rémunérations en France. Bonjour, merci d'être en direct avec nous sur RTL. Vous êtes formel.
Bonjour, merci à vous.
Dans cette enquête, les salaires augmentent bien en France ?
Alors, effectivement, il faut avoir en tête qu'on a eu une accélération du dynamisme du marché de l'emploi ces dernières années, entre 2016 et 2020. Donc évidemment, on a connu la parenthèse de la crise sanitaire et on n'en est pas encore sorti. Mais en fait, ce dynamisme de marché crée les conditions favorables pour une augmentation des salaires en France. Alors, je vous parle d'emplois qualifiés, hein, que ce soit des postes de cadre ou de non-cadre, mais effectivement, on a constaté, notamment en 2019, avant la crise sanitaire, un mouvement de hausse assez sensible. Et là, les indicateurs, alors je suis prudent dans ma réponse, mais on a un certain nombre d'indicateurs qui sont assez encourageants pour les prochains mois et peut-être les prochaines années, qui sont des indicateurs assez fiables, hein, c'est-à-dire le volume d'offres d'emploi aujourd'hui qui est assez proche de 2019, un taux de chômage aussi sur le deuxième trimestre qui est même un petit peu en deçà de celui qu'on a connu sur le dernier trimestre 2019, un redressement de l'intérim aussi qui est un indicateur assez avancé, et l'emploi des cadres qui est à nouveau le vent en poupe. Donc il y a beaucoup d'indicateurs à suivre qu'on va suivre dans les prochains mois, mais on constate quand même et on a constaté une reprise peut-être un peu plus rapide que ce qu'on avait imaginé en sortie de crise, si tant est qu'on est vraiment sorti de cette crise sanitaire.
Monsieur Lecoq, je pense aux auditeurs qui nous écoutent et qui entendent
bien
un
sûr.
Expert qui est en train de leur dire que leur salaire augmente, mais Martial You, ces mêmes auditeurs se disent, mais enfin, ils se fichent de nous. Moi, j'ai l'impression que j'ai toujours moins d'argent pour acheter les produits de première nécessité.
Alors, il y a beaucoup de ressentis. Hein. C'est ça, la difficulté.
Oui, quoi, beaucoup de ressentis.
Vous avez regardé les chiffres,
moi,
Martial.
J'ai regardé les chiffres.
Quand l'essence est à 2 euros, ce n'est pas un ressenti.
Oui, alors, là où vous avez raison, si on prend le SMICAR...
Je parle du litre, hein, bien sûr.
Oui, bien sûr. Quand on touche le SMIC, en fait, on bascule très vite dans les contraintes de budget. C'est-à-dire que tout devient incompressible.
Jusqu'à 2000 euros par mois.
Non, mais jusqu'à 2000 euros.
Alors, 2000, c'est un peu plus 2000, que le SMIC,
on est déjà
pareil,
sur le salaire médian. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous regardez les gros postes de dépenses d'un ménage, vous avez la nourriture. La nourriture coûte proportionnellement plus cher quand on est au SMIC que quand on gagne un tout petit peu plus d'argent. C'est-à-dire que si j'ai regardé, j'ai les chiffres sous les yeux, c'est à peu près 16% du budget d'une famille au SMIC, l'alimentation, ça n'est que 11,8% pour un salaire supérieur. Donc lorsque vous avez l'essence, 75% des ménages au SMIC utilisent la voiture pour aller au travail, eh ben, vous avez une proportion du coût de l'essence qui est plus important pour ces familles-là que pour les familles plus aisées.
Marcel...
Et évidemment, ça coûte plus cher au fil des années. En revanche, ce qui est intéressant, c'est si on regarde sur 20 ou 30 ans d'évolution des prix, c'est une idée qu'on a eue avec le passage à l'euro, que tout avait augmenté notamment. Le prix, j'ai regardé, le prix du café au zinc, la bouteille de lait, le kilo de tomate, tout ça n'a pas véritablement bougé, ça a suivi
c'est
cours normal de l'évolution
des prix.
Sauf Martial You, qui a 25 ans, vous n'achetiez pas des téléphones à vos enfants.
Absolument.
Ou des tablettes à vos enfants, et qu'aujourd'hui, c'est devenu quasiment
c'est
obligatoire.
Ça fait partie des dépenses contraintes qui, là, évidemment, coûtent très très cher, notamment aux familles modestes, parce que lorsque vous ajoutez l'électricité, le gaz, bref, l'énergie de la maison, et ces dépenses contraintes, vous atteignez 30% du budget total. Et ça, effectivement, que vous soyez pauvre ou riche, le forfait téléphonique ou Internet, c'est le même pour
et
tout le monde.
Et j'ai peur, parce que Ludovic Van de Kerkhove, qui est le rédacteur en chef de notre émission me dit « Attention, les smicards n'achètent pas forcément un téléphone portable à un enfant. » J'ai peur que précisément si...
Le taux d'équipement est à peu près le
j'ai
même.
J'ai peur que précisément si, c'est qu'on soit obligé, même quand on a un tout petit salaire, de donner un téléphone à son fils ou sa fille.
Il y a quand même une dimension que je veux faire ressortir, et là c'est vrai, plus on avance dans les salaires, et pour tout le monde, c'est le coût de l'immobilier. Ça, c'est véritablement l'élément qui a explosé au cours des 20 ou 30 dernières années et qui pèse très lourd, évidemment, puisque on a fait les calculs et en 20 ans, vous avez pratiquement perdu une pièce dans ce que vous êtes capable d'acheter aujourd'hui par rapport à ce que vous achetiez il y a 20 ans.
Une pièce en moins le même niveau
pour le
salaire.
Même budget. Le même.
Antoine Lecoq, juste une toute dernière question. Vous avez une vision européenne de tout ça. Est-ce que vous diriez que les salaires en France sont trop bas?
Alors, c'est une question qui est toujours assez complexe, parce que en fonction du secteur d'activité, en fonction du métier, c'est difficile de se positionner. Après, je pense qu'il faut aussi, et c'est ce que vous avez fait avec votre expert, mais il faut aussi mettre en rapport les salaires et puis le coût de la vie dans chaque pays. Et donc, ce serait difficile de tracer une ligne droite sur ce sujet. Je
mais
pense
on a raison de se plaindre ou pas quand on entend les Français ou d'un...
La réponse est oui, les salaires sont trop bas. Quand vous êtes dans la grande distribution, que vous gagnez 1 200 euros net par mois, que vous habitez Paris, vous ne vivez pas.
Vous ne habitez pas Paris déjà, hein, souvent quand vous gagnez 1200 par mois. Mais je tiens juste à préciser.
Non, vous avez compris ce que je veux dire. Oui, non, vous vivez dans la région parisienne. Mais évidemment que vous n'y arrivez pas.
Petite précision quand même, quand on regarde les salaires, lorsque vous êtes un salaire relativement bas, vous bénéficiez et vous avez bénéficié ces dernières années de beaucoup de coups de pouce. Vous avez eu la prime Macron, l'exonération des heures subdifiscalisées, la baisse de la taxe d'habitation. Tout ça a d'abord aidé les petits salaires.
Merci Martial, on remercie aussi Antoine Lecoq, directeur général de Page Group.
Ça va être un sujet en tout cas qu'on va évoquer dans quelques secondes. Le rappel des titres et à tout de suite avec les auditeurs. RTL. RTL. Il est 13h02.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.